toujours plus près de toi. Alors, je vous invite, chers amis, à prier. Là où vous êtes, si vous êtes déjà un tout petit peu endormi, alors demandez à la personne à côté de vous de faire comme ça. Vous allez là maintenant vous réveiller un tout petit peu. Et de nouveau, on demande à notre Dieu d'œuvrer en nous pour sa gloire à lui. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin. Oui, Seigneur, ta parole nous dit de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Et nous te prions donc, Seigneur, que nous soyons encore aujourd'hui à ton écoute, non seulement pour nous individuellement, mais aussi pour nous collectivement, en tant que peuple de Dieu, rassemblés, même si ce n'est que virtuellement, rassemblés pour t'écouter, pour te louer, mais aussi pour que nous soyons envoyés dans le monde pour te servir. Donc, fais de nous ton peuple, nous te prions, Seigneur, encore une fois. Donne-nous de t'écouter, donne-nous d'être ceux qui obéissent ce que nous entendons, ceux qui mettent en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Nous te demandons cela, Seigneur, au précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Content, chers amis, de nouveau de partager ces moments avec vous. Content d'avoir quelques visages nouveaux ici dans cette salle. J'espère que cela pourrait être éventuellement vous à un moment donné. N'hésitez pas à continuer à nous demander s'il y a une place pour vous, peut-être le dimanche matin, mais aussi le dimanche soir. Nous sommes dans ce livre de la Genèse. Donc, si vous avez fermé votre Bible, merci de retrouver votre Bible, vous réallumez votre smartphone et avoir cette histoire interpellante de Jacob, de Laban, de Rachel, Léa, sous les yeux, parce que cela nous sera utile. Moi, j'ai un ami de longue date qui aime bien rigoler. C'est sympa de prendre du temps avec lui, parce qu'on s'amuse et on a des bons souvenirs des moments que nous passons ensemble. Il aime taquiner les autres et c'est un moment vivant d'être avec lui. Il y a quelque temps, nos familles respectives étaient en vacances ensemble. C'était sympa, avec pas mal de taquinerie de sa part par rapport à moi, par rapport à d'autres. Et un soir, vers la fin, en fait, c'était la veille de notre départ du lieu où on était. Nous avons bien mangé ensemble et c'est lui, en fait, qui avait cuisiné ce soir-là. Et nous l'avons félicité pour la magnifique sauce qu'il avait préparée. J'oublie, c'était avec quelle viande. Et il nous remerciait, il avait l'air content quand on le félicitait. Il ne disait rien de plus. Et le lendemain matin, lors du petit-déj, peut-être il faisait un peu trop tôt pour lui, mais mon épouse a découvert dans la poubelle, en fait, les déchets du paquet de la sauce qu'il avait préparée. Et cela nous a étonnés, parce que normalement, c'est un grand cuistot, et normalement, il fait tout ça lui-même. Mais il ne nous avait rien dit lorsqu'on l'avait félicité que pour finir, ce n'était pas lui, c'était juste une sauce achetée. Et donc, ce matin-là, c'était notre tour de taquiner notre ami, comme vous pouvez peut-être imaginer. Mais peut-être parce qu'il était stressé, parce que c'était le jour de son départ, peut-être parce que c'était trop tôt le matin, je n'en sais rien. Lorsqu'on commençait à le taquiner, il prenait ça super mal. Mais ce qui nous a surpris, c'est juste l'ironie. C'est de pouvoir donner de tels commentaires à d'autres, mais lorsqu'il s'agissait de recevoir de tels commentaires, il ne le supportait pas. Et donc, c'est vrai, c'était un peu désagréable de terminer les vacances comme ça. À ça, on en a. Il nous a envoyé plus tard dans la journée, lorsqu'on était de retour à Bruxelles, un petit message sur WhatsApp pour s'excuser auprès de nous. C'était sympa de sa part. Bah, je ne sais pas si vous avez aussi une expérience semblable à un moment donné dans votre vie, ou quelqu'un qui vous donne de temps à autre des retours constructifs par rapport à un domaine de votre vie, mais lorsque c'est son tour d'écouter vos retours, bah, il ne veut pas en savoir. Quelqu'un qui dit peut-être aussi qu'il faut être franc, il faut être direct, il faut appeler un chat, un chat, Et lorsque vous essayez de faire ça auprès d'une telle personne, vous vous faites manger par cette personne. Ben, ce n'est pas gai d'expérimenter une telle réaction. Ben, l'histoire que Borat nous a lue, c'est une histoire qui tourne autour de ces quatre personnages. Vous avez bien capté ça, j'imagine. Hein? Jacob, Laban, Rachel et Léa, les deux filles de Laban. Et au cœur de cette histoire, il y a Laban qui rend à Jacob la monnaie de sa pièce. C'est interpellant que cela arrive. Mais nulle part dans tout ce récit, peut-être que vous avez aussi constaté cela, il y a un mot direct de la part du narrateur, de Moïse, pour marteler quelle est la signification de ce texte, quelle est la portée de cette histoire pour nous. Ce texte n'est pas cité dans le Nouveau Testament, quelque part, par des apôtres. Et donc, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert tout cela? Mais je pense que le narratif, la simple histoire qui est soigneusement racontée ici, met en relief des leçons pour Jacob. Et oui, alors pour nous également. Et c'est ça ce que nous allons essayer de voir ce matin. Avant d'arriver à ces leçons, nous allons nous rappeler de quelques bases par rapport à cette histoire de Jacob. Jacob, souvenons-nous, il s'appelle Jacob, car dans le ventre de sa maman, déjà il tenait le talon de son frère. Et il tenait ce talon avec ténacité. Cette lutte de réussir malgré les défis se manifeste donc dès le début de la vie de Jacob, mais ensuite par différents événements. Il a arraché le droit d'aînesse de son frère en exploitant la faiblesse de son frère pour une bonne casserole. Ensuite, il a trompé son père, vous vous souvenez de ça? Son père qui, lui, était aveugle à ce moment-là, en se faisant passer lui pour son frère afin d'arracher la bénédiction que son père voulait tombe sur son frère Ésaü. Et il le fait par un jeu de déguisement malin, encouragé, poussé même par sa maman. Cet épisode, peut-être vous vous souvenez, a provoqué la colère de son frère Ésaü. Et ensuite, dans le chapitre précédent du nôtre, au chapitre 28, à la fuite de Jacob vers l'est, loin du pays promis à Abraham. Et c'est en chemin là, vers ce pays, vers l'est, que Jacob, lors d'un rêve, il rencontre pour lui-même l'Éternel. Vous vous souvenez de cela? L'Éternel se révèle à Jacob. Il promet à Jacob qu'il soit bénéficiaire des promesses qu'il avait données à Abraham, qu'il y aura une grande descendance de cet homme Jacob, qui sera cette descendance une bénédiction pour toutes les familles de la terre. « Vois, disait l'Éternel au verset 15 du chapitre 28, « Je suis moi-même avec toi. » Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Et dès ce moment-là, si vous voulez, c'est un long chemin d'apprentissage pour Jacob par rapport à qui il est et par rapport à qui est l'Éternel. Ce que c'est d'avoir l'Éternel comme son Dieu. Car au début, et nous avons vu ceci la semaine dernière au chapitre 28, au début de cette nouvelle donc, relation Jacob et l'Éternel, Jacob, tel est son genre, cherche à exploiter Dieu pour ses propres objectifs, tout comme jusque-là il avait exploité les autres. Dieu, l'Éternel, il est pour moi? Alors yes! Avec lui, ce serait sympa. Jean, évangile, si vous voulez, de la prospérité, en quelque sorte. Croire, et je serai béni. Ha! Super ça, n'est-ce pas? Matériellement, physiquement. Ah oui, ça, je veux bien. Pas de souci, merci l'Éternel. Et donc, nous voyons un Jacob en arrivant au chapitre 29, le nôtre ce matin, un Jacob toujours confiant lorsque cette histoire démarre, malgré son statut de réfugié. Peut-être vous voyez dans ces premiers versets de ce chapitre, cette histoire où il croise donc ses bergers, il découvre Rachel et ensuite il rencontre Laban. Peut-être vous voyez à quel point de nouveau Jacob est quelqu'un qui veut profiter de la situation, qui fonce, au lieu de se contenter des traditions autour du puits où se rassemblaient les bergers. Bah lui, il dit non, ça ne va pas, il faut aller plus vite. Il faut abreuver maintenant le bétail. Il demande si eux, ils connaissent Laban, il leur suggère comment mieux organiser donc l'abreuvage du bétail. Il fait connaissance de Rachel, la fille de Laban, elle qui est bergère. Il roule même lui seul, il paraît, la pierre de l'ouverture du puits, qui normalement se pose, nous supposons, étant donné l'histoire, il fallait plusieurs hommes pour bouger cette pierre. Mais ensuite, nous rencontrons Laban et nous voyons à quel point Jacob trouve quelqu'un, un adversaire, si vous voulez, à sa taille, à lui. Parce qu'il se fait piéger par son oncle Laban. Laban, nous l'avons déjà rencontré dans la Genèse, si nous avons lu auparavant au chapitre 24. C'est là où la richesse de son beau-frère Abraham a motivé Laban. Et nous voyons dès le début que Laban, c'est quelqu'un qui aussi cherche à profiter des autres. Déjà dans cette histoire, Laban avait exploité la position relative de faiblesse de Jacob, parce que Jacob arrive et il n'a rien à donner à Laban, il est réfugié après tout. Et ensuite, cela pousse Jacob d'être contraint en quelque sorte d'offrir 7 ans de service pour obtenir la main de la fille de Laban, Rachel. C'est beaucoup 7 ans pour quelqu'un du même parenté. Alors que les premiers 7 ans n'était pas tout à fait juste et sous-entendu lorsque Jacob rappelle à Laban que ses années de service sont accomplies au verset 21. Rachel, cette femme qu'il aimerait épouser, verset 17, est d'une grande beauté, nous dit le texte. Sa sœur Léa avait les yeux doux, délicats. Est-ce cela négatif? Peut-être sous-entendu, oui, parce qu'on voit le contraste avec sa sœur Rachel. Donc Jacob tombe vite amoureux pour Rachel, et Laban, il voit cela, et il en profite. Mais cela nous rappelle de qui? De Jacob, qui lui avait exploité la nature impulsive de son frère Ésaü afin de prendre les droits d'ânesse. D'Ésaü. Ensuite, sûrement avec la complicité de sa fille Léa, on ne sait pas trop comment, et d'autres dans son entourage, Laban arrive à faire croire à Jacob, au moment du mariage prétendu être avec Rachel, que Léa est Rachel. Léa était voilée. On suppose, même pendant cette première nuit où elle couchait avec son mari. Et donc, il y a une belle touche d'humour dans ce texte. Le narrateur verset 25, nous met dans la peau de Jacob le lendemain d'avoir couché avec la femme qu'il croyait être la sienne, Rachel. Avait-il trop bu aussi pour ne pas constater les yeux de Léa, différent des yeux de Rachel, on ne sait pas. Mais que dit-il au verset 25? Littéralement, nous dit le texte selon une autre traduction, « Et au matin, surprise, c'était Léa. » Aïe, aïe, vous imaginez de vous tromper sur un détail aussi important? Quelle mauvaise surprise! Laban a le devant. Les rôles sont renversés. Le trompeur est trompé lui-même. Et contrairement à l'histoire de Jacob et Ésaü, c'est Léa, l'aînée, et pas Rachel, la cadette, qui obtient donc cet homme vaillant. Par la suite, alors, Jacob est contraint d'accepter ce qui s'est passé et de devoir travailler 7 ans de plus pour Rachel. Bon, 7 ans de plus pour Laban, afin de pouvoir avoir également Rachel comme épouse. Et donc, voici maintenant 3 constats tirés de l'ensemble de cette histoire. 3 constats par rapport à Jacob, et ensuite on aura 3 leçons donc pour nous. Premier constat, Dieu fait justice à Jacob. Dieu fait justice à Jacob. Oui, je pense que c'est clair, il y a une part de « enfin » ici, dans ce chapitre. « Enfin, Jacob, on lui rend la monnaie de sa pièce. » On ne peut pas s'embarquer sur un cheminement avec l'Éternel en pensant que nous pouvons cacher quoi que ce soit de sa face, en pensant qu'il n'est pas dérangé que je cache une partie de qui je suis. Et je pense que je peux cheminer avec lui tout de même. Non, suivre le Seigneur, c'est de prendre sa croix, renoncer à soi. Le Seigneur ne nous laisse pas libres de faire n'importe quoi si nous l'appartenons. Son projet, c'est de changer cet homme, Jacob, le façonner autrement. Et donc, oui, ses fautes sont retournées contre lui. Dieu, parfois gentiment, parfois subitement, nous met face de temps à autre à nos propres erreurs. Il nous connaît, il n'est pas indifférent à l'injustice qui se trouve dans le monde, mais qui se trouve également dans notre propre cœur. Il est le Dieu qui fait justice. Ce texte souligne cela. Mais deuxième constat, Dieu apprend à Jacob la persévérance. Mettons-nous dans la peau de Jacob. Si les premiers 7 ans passaient sans souci, il y a ce magnifique verset 20, n'est-ce pas, qui nous parle de ce que c'est de tomber amoureux. « Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'il l'aimait. » Magnifique, magnifique. Mais les deuxièmes volets de 7 ans, ben cela allait être pénible pour Jacob. 7 ans de plus avec Léa et Rachel, toutes les deux, l'une des deux qu'il n'aime pas, et qui sait qu'il ne l'aime pas. Plus tard, dans la loi de Moïse, Lévitique chapitre 18, verset 18, la loi interdira à un homme de se marier à 2 sœurs lorsque les 2 sont en vie. Pourquoi ? Pour éviter, nous dit cette loi, des rivalités entre elles. Donc Jacob doit faire face donc à une vie de famille compliquée dès le départ, avec des rivalités au sein de la famille. Et vous ajoutez à cela 7 longues années pénibles à travailler pour la personne, ce beau-père Laban, le plus malin qu'il a jamais eu. Dur. Mais cela n'enlève en rien la promesse que Dieu avait donnée à Jacob. Au chapitre 28, verset 15, « Je suis avec toi. Là où toi tu te trouves, c'est pas là où Jacob, là maintenant, aurait choisi. Mais cette piste d'être là où il se trouve, c'est une piste formatrice pour Jacob, n'est-ce pas ? Car malgré la difficulté, ça nous mène donc à notre 3e constat par rapport à ce passage, Jacob fait preuve de ténacité. Vous avez vu ça, Jacob ne réagit pas face à cette difficulté de la même manière qu'Ésaü. Il ne s'enfuit pas de cette difficulté. Il ne s'explose pas de colère. Il ne cherche pas, en tout cas pas tout de suite, de se venger directement par rapport à Laban. Ce n'est pas encore la fin de son parcours d'apprentissage. Nous allons voir cela dans les chapitres à venir. Dans un sens, ce n'est que le début. Il fera encore des erreurs, Jacob. Mais, au moins ici, il ne se cache pas de la difficulté. Il assume cette difficulté. Et lui, c'est un homme, si nous réfléchissons à Jacob, qui sait ce que c'est faire face à des obstacles. Oui, pour en profiter pour lui jusque-là. Mais ce qui peut être utilisé pour des fins égoïstes devient également, plus tard, une qualité chez Jacob. Car sa détermination lui servira ensuite, même avec Dieu, au chapitre 32. Parce qu'il lutte, parce qu'il persévère avec Dieu, il devient Israël, le père de la nation, donc, d'Israël. Et ce côté activiste, initiateur, est là tout au long de ce chapitre. Il initie la conversation avec les bergers, il leur dit que leur pratique n'est pas bonne, il roule la pierre de l'ouverture du puits, malgré le fait que cela faisait d'habitude par plusieurs hommes, il cherche à démontrer son utilité à Rachel et à sa famille. C'est intéressant de voir à quel point des pierres, d'ailleurs, ont un rôle prépondérant dans ces chapitres dans la vie de Jacob. Peut-être vous vous souvenez, mais au chapitre 28, il s'est endormi sur une pierre comme oreiller après avoir pris fuite d'Ésaü. Ben, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas ça ce que je choisis normalement comme oreiller. C'est dur, ça, n'est-ce pas? Ensuite, il prit une pierre, nous dit le texte, pour marquer l'endroit où Dieu l'a visité dans cette vision à Bethel. Plus tard, au chapitre 31, il fera une alliance avec son beau-père Laban. Et pour le formaliser, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres comme témoin de leur accord. Bon, peut-être qu'il ne faut pas pousser ceci trop loin, mais Jacob, l'homme habitué donc à ces objets inanimés, métaphoriquement, dans cet épisode-ci, il fait face aussi à une pierre en la personne de son oncle, de son beau-père, Laban. Et malgré cet obstacle, il tient le coup. Il sert encore Laban pour ses 7 ans supplémentaires. Alors, face à ces 3 constats, en ce qui concerne Jacob, quelles sont des leçons à tirer pour nous? Nous en avons aussi 3. Première question, première leçon, dois-tu faire face à ton propre Laban? Oui, je pense que c'est clair, chers amis, des Labans, nous en avons dans la vie. Ici, je ne parle pas des petites contraintes de courte durée. Ma fille Jemima, elle est partie pendant 6 mois en Colombie. Ça se passe bien. Merci à tous ceux qui nous en parlent. Mais c'est vrai, pour le moment, elle partage une chambre avec 5 filles. Et donc, trouver la vie privée, un peu de calme, etc., c'est difficile. C'est contraignant, on est d'accord, mais ce n'est pas pour la durée. Donc, ce n'est pas aussi difficile que cela, de faire face à cela. Non, ici, je parle plutôt, par exemple, d'un collègue difficile avec qui vous devez travailler pour des années. Est-ce le cas? Est-ce que la personne à côté de vous au travail, peut-être pour le moment, il n'y en a pas, parce que vous êtes seul dans votre propre bureau à la maison, mais sinon, est-ce que vous êtes face à quelqu'un de très difficile avec qui vous devez travailler pendant des années? Ce n'est pas que vous avez choisi une telle circonstance, une telle relation, mais vous y êtes, il n'y a rien à faire, vous devez faire face à cela. Peut-être c'est un collègue un peu casse-pied, peut-être c'est un colocataire très difficile pendant plusieurs années. Peut-être c'est un membre de la famille qui met vos nerfs à vif. C'est peut-être pas la tante éloignée qui ne vient qu'une fois ou deux sur l'année. De nouveau, ça c'est juste temporaire, on peut y arriver. Mais c'est quelqu'un avec qui vous devez vivre ou travailler continuellement. Alors là, c'est un défi, n'est-ce pas? Et bien sûr, je pense que nous devons aussi le mentionner, il se peut qu'une telle personne soit dans votre église locale. L'église, si vous voulez, c'est un peu comme une famille, n'est-ce pas? On ne choisit pas les membres de notre famille. Parfois, on aimerait choisir les membres de notre famille. Ici, à côté de moi, j'ai une grande famille, sept personnes, donc je ne sais pas ce qu'eux, ils diront à cette question-là. On ne choisit pas nos frères et sœurs en Christ. On ne se rassemble pas, même virtuellement, parce que nous nous entendons bien de nature. Non! La chose qui nous réunit, qui nous rassemble, c'est uniquement la foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, ceux qui partagent la foi en Jésus-Christ sont super différents les uns les autres. On aime parfois différents chants. On aime différents passe-temps. On parle avec des accents différents. On mange différemment. Quelques-uns sont plus timides, d'autres sont plus directs. Et le Nouveau Testament nous exhorte à nous supporter les uns les autres dans l'amour. Quel magnifique réalisme de la part de Dieu qui nous laisse sa parole. Peut-être pour vous, ce n'est pas juste quelqu'un d'autre dans l'Église, peut-être c'est même l'un des responsables de l'Église. Peut-être vous arrivez et puis le pasteur, le responsable que vous appréciez est parti. Il y a un nouveau qui arrive, qui le remplace et ce n'est plus la même chose pour vous. Vous appréciez un peu moins le nouveau. Et pourtant, vous êtes parti avec ce nouveau pendant 7 ans, 10 ans, 14 ans. Peut-être vous venez à l'église en pensant, « Ah, ben je vois que celui-là, il est bientôt à la retraite, ou celui-là, ça fait déjà 15 ans qu'il a travaillé, il va sûrement partir dans 2-3 ans. Et donc, il faut juste attendre quelques années, et puis ça changera, pas de souci. » Et puis, vous apprenez qu'il annonce que non, il désire rester pour encore 10 ans, 7 ans, etc. Bien sûr, nous devons faire face, là, au défi de persévérer. Et les labons de notre vie, ils ne doivent pas forcément être une personne. Oui, vous le comprenez. Ça peut être également des circonstances inattendues dans notre vie. « Je suis avec toi, disait Dieu à Jacob. Je te garderai partout où tu iras. » Par Jésus-Christ, cela, nous l'avons entendu la semaine dernière, c'est encore plus vrai. Je suis avec vous, le Seigneur nous dit, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle magnifique promesse! C'est là, et on peut se dire, c'est vrai, je sais cela. Mais vous savez, je n'avais pas anticipé que je devais rester célibataire lorsque j'arrive à la trentaine. Je n'avais pas anticipé que mon mariage allait être aussi difficile qu'il est le cas. Je n'avais pas prévu que j'allais avoir un enfant handicapé. Je n'avais pas prévu de vivre une division au sein de mon église locale. Je n'avais pas pensé perdre un être cher et proche aussitôt et donc vivre après pour de longues années tout seul. Je n'avais pas pensé à devoir vivre de manière confinée pour un temps aussi long. Je n'avais pas prévu d'être atteint d'une maladie chronique qui fait que je me trouve petit à petit sans force et sans espoir d'amélioration. Je n'avais pas prévu d'être dans ces circonstances-là. Qu'offre l'Église de Jésus-Christ à ce moment-là? Dieu, vous savez, il peut transformer vos circonstances si seulement vous avez la foi. Alors combien c'est cruel de conseiller de cette façon-là. Bien sûr, Dieu peut guérir, mais ce n'est pas garanti qu'il guérira. Nulle part est-ce que cela est promis dans la Bible. Oui, on se réjouit lorsque Dieu agit de manière miraculeuse, mais on ne perd pas de vue que Dieu ne promet pas de nous enlever de l'épreuve. Non, le truc à capter ici, dans cette première leçon, c'est que souverainement, c'est Dieu qui a prévu ces circonstances pour nous. C'était le cas pour Jacob, c'est le cas pour nous. Il nous appelle, notre Dieu, à mourir à nous-mêmes, à notre intérêt personnel, et à le suivre, quoi que cela nous coûte, dans nos circonstances actuelles. Cela, dans un premier temps pour Jacob, a coûté 14 ans de servitude. Mais cela ne mettait pas en danger la promesse de l'Éternel d'être lui-même avec lui, de le garder partout où il ira et de l'amener à terme dans la terre promise. Car deuxième leçon, qui construit donc sur cette première leçon pour nous, comprends-tu que l'amour et la correction de Dieu ne sont pas deux choses opposées? Comprends-tu que l'amour et la correction de Dieu ne sont pas deux choses opposées? Non, la correction de Dieu fait preuve de son amour. Parce qu'il nous aime, il nous corrige. Car cela sert à nous former, à nous façonner, à nous apprendre ce qu'implique pour nous de se charger de notre croix, renoncer à nous-mêmes. Proverbe chapitre 3, peut-être vous connaissez ce proverbe, chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. » Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Ce proverbe est cité dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 également. Au lieu donc de se plaindre comme première réaction dans nos difficultés, nos circonstances inattendues, soyons conscients qu'à travers ces circonstances, oui, même ces circonstances douloureuses et pas souhaitées de notre part, Dieu est en train d'œuvrer en nous pour notre bien. Alors, j'aimerais prendre un exemple d'actualité, si vous le permettez, dans notre vie d'Église. Il s'agit de ce projet bâtiment que nous venons de vous annoncer, projet 2023. Mon souhait, vous le comprenez déjà, j'espère, c'est que ce projet se réalise. Je ne suis pas le seul qui souhaite cela. Mais je me suis dit cette semaine, es-tu prêt, Steve Orange, dans ton cœur, si souverainement, dans le conseil de Dieu, ce projet ne se réalise pas? Qu'on ne trouve pas de donateur externe, qu'on ne trouve pas les 100 000 euros que nous avons fixé comme objectif au sein de notre Église, qu'il n'y a pas un nombre suffisamment important de nos membres qui souhaitent que le projet aille de l'avant. Est-ce ma réaction dans de quelles circonstances sera d'abord de râler contre les autres, contre Dieu? Nous voici encore 7 ans dans ce bâtiment-ci, en train de faire le ministère de manière autre de ce que moi j'estime être le meilleur? Non, la réaction primordiale, première, c'est que c'est Dieu qui est derrière ce coup dur pour moi, si cela est le cas. Qu'est-ce que je dois apprendre par rapport à mon identité, à mes projets, à moi, à mon orgueil, à l'espérance que j'ai en Christ? Qu'est-ce que j'apprends par rapport à la grandeur et la sagesse de Dieu plutôt que la mienne? C'est super important d'avoir ça comme réflexe lorsque nous sommes face à des circonstances difficiles. Alors, à ce stade, j'aimerais juste ajouter un mot à nous qui pensons que nous devons être ceux et celles qui dispensent des leçons que Dieu veut donner aux autres. Peut-être vous connaissez l'une ou l'autre personne qui pense parfois être appelé par Dieu à faire cela. Ici, nous remarquons que Dieu se sert de Laban pour apprendre des choses à Jacob. Mais cela ne déresponsabilise pas Laban. Loin de là, Laban, lui aussi, est un vrai cas de quelqu'un en besoin de changer, d'être transformé. Donc, ceci n'est pas un appel à devenir, nous, des casse-pieds exprès pour pouvoir donner des leçons aux autres. Non. Ça serait encore de se vanter, de vouloir manipuler les autres. Donc, ne dites pas « Ah ah, je vois cela fera du bien de m'opposer au projet 2023, hein, car ce serait bien que Steve apprenne l'une ou l'autre chose. » Peut-être ça c'est vrai, mais ce n'est pas à vous de penser de m'apprendre cela. Ça ne marche pas comme ça. C'est à nous, face à nos circonstances variées, de ne pas ignorer la main de Dieu derrière nos échecs, nos frustrations dans la vie. Il ne nous a pas abandonnés. Il œuvre en nous pour nous façonner à l'image de son Fils. Dieu permet des échecs pour son peuple, vous le savez. Dieu, gracieusement, nous met aussi, à travers de tels échecs, face à nos limites. Peut-être nos limites en tant que parents. Peut-être nos limites en tant qu'amis. On se rend compte qu'on n'était pas à la hauteur lorsqu'on aurait dû l'être. Peut-être à nos limites en tant que conjoints. On regrette de ne pas avoir fait quelque chose, une attitude qu'on maintient pendant un long moment. Il nous met peut-être face à nos limites, oui, en tant que pasteur, en tant que collègue au travail. Et qu'il nous met face à nos limites, c'est humiliant pour nous, c'est vrai, mais combien c'est bénéfique, chers amis. Car depuis ce moment-là, comme c'était le cas pour Jacob, nous commençons à comprendre que toute réussite que nous aurons dans la vie, alors cela vient de Dieu. Cela, c'est de la part de Dieu. Cela, c'est grâce à la puissance de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec moi. Voici la troisième leçon, dernière leçon. Sais-tu que la patience dans l'épreuve fait partie du fruit de l'esprit? Oui, c'est écrit que la patience est un fruit de l'esprit de Dieu, avec d'autres qualités. Vous pouvez trouver ça en Galates, chapitre 5. Dans un sens, c'est un peu précipité de dire que Jacob, ici, fait preuve du fruit de l'esprit, parce qu'il doit encore apprendre d'autres choses par la suite. Mais que la ténacité dont il fait preuve ici peut être employée pour des bonnes fins par la suite, c'est clair. C'est clair. Combien mieux pour nous si nous pouvons utiliser cette ténacité, cette patience dont Jacob fait part ici, dans notre propre vie chrétienne. On a parfois toujours tendance à croire qu'être patient égale être faible. Non, être patient, c'est de faire preuve de foi. La foi de voir la main de Dieu derrière les affaires des hommes. La foi de ne pas avoir toujours le dernier mot sur un sujet ou un autre. La foi de comprendre que Dieu se sert des autres pour nous corriger. La foi de pouvoir assumer les échecs quand nous savons que notre avenir reste entre ses bonnes mains. Oui, c'est vrai que Dieu nous dit « Je suis moi-même avec toi ». Je te garderai partout où tu iras. Une telle patience fait preuve donc d'une foi solide, une soumission à Dieu, une compréhension que ce monde ne se tourne pas autour de moi. Ce n'est pas pour dire que la patience est facile, qu'on soit forcément réconcilié à tous égards par rapport à la situation difficile que nous devons supporter. Non, le deuxième volet de 7 ans de Jacob, c'était un volet pénible. Mais peu importe, nous patientons et nous mûrons ainsi à nous-mêmes. J'ai lu cette semaine quelques Parole de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur théologien allemand, mort en martyr aux mains des nazis en 1945, à l'âge de 39 ans. Il avait fait une année d'études aux États-Unis au début des années 30, et grâce à ses amitiés faites pendant cette année d'études, il a pu recevoir une invitation juste avant que la guerre commence en 1939, d'enseigner aux États-Unis avec objectif de trouver un poste permanent dans une faculté là-bas et donc du coup d'être épargné de la terreur qui allait déclencher en Allemagne. Mais dès qu'il arrivait, été 1939, aux États-Unis, il a écrit dans son journal qu'il savait qu'il devait retourner en Allemagne, qu'il ne pouvait pas abandonner son pays vers cette destruction sous le régime des nazis. Et donc, il rentrait tout de suite. Et il jouait par la suite un rôle important dans ce qu'on appelle l'Église confessante en Allemagne pendant la guerre, tandis que l'Église formelle a abandonné la foi pour faire la paix avec des nazis. Il s'opposait, lui, aux nazis. Il menait une faculté de théologie clandestine. Il aidait des juifs à fuir le pays. Il était impliqué dans un complot même d'assassiner Hitler. Il s'est fait emprisonner. Et ensuite, il est mort en martyr. Il a dit que notre nature humaine a une certaine tendance à se tenir à l'écart de tout problème qui pourrait nous mettre mal à l'aise dans des situations auxquelles nous faisons face. C'est vrai, n'est-ce pas, cela? Ensuite, il a dit, « Je crois que rien de ce qui m'est arrivé dans la vie n'est dénué de sens. Et aussi que c'est bien pour nous lorsque les choses se déroulent contrairement à nos désirs. Je vois un but dans mon existence actuelle et j'espère seulement pouvoir l'accomplir. » Et nous voici, je ne sais pas, 80 années plus tard, en train encore de citer ces mots. Il a fait preuve de cette patience, de cette persévérance face aux défis devant lesquels il se trouvait. Il faut de la patience pour vivre de cette manière. Mais d'où vient une patience comme celle-là? Et avec cela, on termine avec Jésus, bien entendu. Lui qui est l'exemple suprême de cette ténacité dont Jacob faisait preuve, de cette patience. Philippiens 2 nous dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, dit 1 Pierre, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Chers amis, chers frères et sœurs de notre Église, je ne connais pas forcément qui sont vos labans actuellement. Je ne connais pas dans quelle situation vous êtes vraiment face à l'échec, à la frustration. Mais nous terminons tous en écoutant ce que le Seigneur nous dit. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Je vous invite, chers amis, à prier avec moi. Seigneur, nous ne voulons pas glorifier Jacob ici. Nous avons vu à quel point Jacob n'est pas exemplaire. Mais toutefois, nous te louons que nous voyons des indices ici d'un début de parcours de Jacob où il comprenait ce que c'est de te confesser comme son Dieu. Où il comprenait que oui, tu es le Dieu qui est juste, tu es le Dieu qui corrige à ton peuple, tu es le Dieu qui nous demande de faire preuve donc de patience en toutes circonstances, de persévérer, de mourir à nous-mêmes, de te suivre. Donne-nous d'être un tel peuple, Seigneur, nous te prions. Et cela pour ta gloire. Amen.